Putin, of all people, had took sides with Russia over our own American intelligence agencies, now says it was just a tiny little slip-up, even smaller than his fists.
In a key sentence in my remarks, I said the word would instead of wouldn't. The sentence should have been, I don't see any reason why I wouldn't or why it wouldn't be Russian. So just to repeat it, I said the word would instead of wouldn't. And the sentence should have been, and I thought I would be maybe a little bit unclear on the transcript or unclear on the actual video. The sentence should have been, I don't see any reason why it wouldn't be Russia.
Partagez, découvrez, où que vous soyez, commencez votre essai gratuit maintenant sur www.mubi.com/fr. Explorez le monde du cinéma. Avis à tous les cinéphiles passionnés de la culture, explorez le monde du cinéma, partagez et découvrez où que vous soyez à travers la planète. Commencez votre essai gratuit maintenant sur www.mubi.com/fr. Abonnez-vous maintenant, 7 jours gratuits sur Mubi. En ligne, Mubi, une programmation choisie avec soin, vous propose les plus grands films cultes, classiques, indépendants et récompensés dans des festivals prestigieux. Mubi du cinéma en ligne, un nouveau film chaque jour. 30 films à découvrir. Téléchargement via iOS ou Android pour visionnage hors ligne. Jamais, jamais de pub. Et oui, Mubi, une sélection des meilleurs films choisis avec soin pour seulement $9.99 par mois. Explorez la nouvelle vague du monde du cinéma canadien avec notre invité du jour. Faites partie de Mubi. Commencez votre essai gratuit maintenant sur www.mubi.com/fr. Êtes-vous un fournisseur de services? Faites-vous partie de la communauté francophone? Connaissez-vous vos droits pour recevoir des soins de santé en français? Qu'est-ce que l'offre active en santé? Alors, Reflet Salvéo, l'organisme à but non lucratif, est là pour vous accompagner dans votre démarche pour trouver des soins, des bons services en santé. Reflet Salvéo est chargé d'engager la communauté francophone dans son système de santé, mais également de conseiller les réseaux locaux d'intégration des services de santé sur leur politique de service. Connaissez-vous les slogans de Reflet Salvéo? Compétence, écoute, engagement, solidarité. Reflet Salvéo, le reflet des besoins en santé pour les francophones de la région. Que vous soyez immigrant, femme, jeune, personnes âgées ou personnes ayant un handicap, ou vivant avec le VIH, Reflet Salvéo prend en compte vos besoins dans son plan d'action. Découvrez toutes les thématiques, les projets et les offres d'emploi disponibles en ce moment chez Reflet Salvéo en visitant le site web www.refletsalvéo.ca. Faites comme Christopher, devenez membre et prenez votre santé en main. Communauté informée, communauté en santé, ça commence chez Reflet Salvéo. Et soyez au premier rang avec le DG de Reflet Salvéo le dimanche 5 août prochain.
J'ai des amis hollandais. J'ai des amis javanais.
J'avoue, j'en ai bavé pas fou.
J'ai des amis au Portugal.
Hola,
j'ai des amis au Sénégal.
Du côté de l'Oumoué.
J'ai des amis dans les villes.
Allez les gars, à votre.
J'ai des amis dans les îles.
Anti-goût de miel, anti-goût de fiel.
J'ai des amis proches ou lointains. J'ai des amis dans tous les coins.
Mais
alors.
Bonjour.
Tant que la terre sera ronde, j'irai où?
Ici.
Tour du monde.
Là-bas.
Voir d'autres êtres humains.
Ailleurs.
Ni plus ni moins.
RFI.
RFI.
On en fait tout un monde.
Vous écoutez Potpourri Show sur CUT 89,5 FM. Une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Potpourri Show, 30 ans déjà. Toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm ou www.popourichaud.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM. Et oui, nos salutations à tous nos amis qui nous écoutent dans la région de Tunis, en Tunisie, au Maroc, Paris, bien sûr, bonjour, Rennes, Lyon, Port-au-Prince, en Haïti, bien sûr, le Québec à Trois-Rivières, Montréal est au rendez-vous aujourd'hui, et aussi un nouveau partenaire, Nad Siva Ramen, journaliste à l'Express de l'île Maurice, la Sentinelle, un gros bonjour. Et professeur Eddy Bouraoui, beaucoup de réactions suite à votre passage la semaine dernière, les gens en demandent encore, encore et encore. Daniel Pocomon, merci beaucoup d'avoir été là. Marceline, un gros bonjour. Daniel Issa-Sayeg et aussi tous ceux et celles qui nous écoutent dans la région de Toronto, vous êtes nombreux et merci de votre fidélité. L'ingénieur du son DJ devra assister de Sloan Balance, stagiaire du collège Glendon qui a changé de maillot. Production animation, votre serviteur Eric Adair avec vous jusqu'à 13h sur www.cut.fm. Et pour nous joindre, madame, monsieur, tout au long de l'émission, popourri@cut.fm, 86-946-7000, si vous êtes dans notre zone de diffusion. Aujourd'hui, il se passe beaucoup, beaucoup de choses à l'émission. On en fait le point avec le soccer Coupe du Monde, déferlement de haine raciste contre les Bleus après leur victoire. Nous aurons des témoignages, des commentaires, des personnes, personnalités, mais aussi les fans de l'équipe bleue de France et du continent africain en ce dimanche 22 juillet. Défi démographique alarmant pour les franco-ontariens. Eh oui, François Boileau, commissaire au service en français de l'Ontario, se projette dans l'avenir. À domicile, dans votre confort, découvrez une sélection des meilleurs films, y compris des films en français, non disponibles sur Netflix, pour seulement $9.99 par mois. On en parle avec Sophia Bodanowitz, l'une des cinéastes réalisatrices, la seule et l'unique franco-ontarienne participant à cet événement. On en profitera pour parler des autres films francophones en ligne. Aujourd'hui, hommage à Claude Lanzmann, auteur de Shoah et mémoire du XXe siècle, écrivain, philosophe et journaliste français. Notre invité Alain Chouraki, collaboration France 24, à ne pas rater vers midi 15. Alerte du commissaire des services en français de l'Ontario, en effet, sur les changements démographiques, les franco-ontariens purlaines en perte de vitesse. Selon ce rapport, les pièces et spectacles de l'été qui créent polémique cette année, surtout dans la région de Montréal. Peut-on se mettre dans la peau d'un noir ou d'un homosexuel si facilement? Notre ami, Monsieur Ledoux, se déguise en boucher, madame, monsieur, boucher musulman pour vendre la viande halal. À suivre, Donald Trump prise de la semaine. I would, I wouldn't, I should have, I had not. Sommes-nous à la veille d'assister de la descente aux enfers de Donald Trump? Nous attendons vos réactions à popourri@cut.fm. Évadez-vous avec nos DJ des quatre coins de la planète aujourd'hui, y compris un DJ haïtien à ne pas rater, qui sont au platine aujourd'hui, enfin tout au long de l'été 2018. La Société d'Histoire de Toronto vous invite à une balade découverte de West Don Lane, malgré la pluie. Le thème, quand tous les joueurs collaborent. C'est vrai, on se dimanche 22 juillet, départ 14h, près du café Odin, ou Odin, 514 rue Queen, la rue Queen Est, au coin de la rue River Street. C'est le métro King et tramway 504 vers l'Est. Et votre guide du jour, Nathalie Prézeau, bien sûr, de la Société d'Histoire. Allez sur leur site www.sociétédhistoiredetoronto ou shtoronto.wordpress.com pour tout savoir. Bonjour, monsieur Sloan Ballant. Vous avez changé de maillot. Est-ce que vous êtes toujours dans le maillot rouge, le maillot bleu, le maillot blanc? On en verra. Quelle histoire. C'est de la crise hein, avec cette Coupe du Monde. Il y a eu aussi beaucoup d'agressions sexuelles, nous dit-on. Tous les Français ne sont pas nécessairement très heureux des retombées de cette grande victoire de la France, que certains disent victoire de l'Afrique. On en parle. Poupourri chaud, 31 ans déjà, toute la diversité du monde sur votre fréquence. Merci, 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 chers amis, d'avoir été là tout au long de l'acte. I wish I wouldn't. I wish I would. Anyway. Et oui, quelle histoire, hein? Vous avez vu les bêtises de M. Trump qui est dans l'eau chaude, là? Les buzz de nos médias partenaires. Du journal Express de Toronto depuis 2010, le musée de l'Amérique francophone de Québec présente la petite mais très riche exposition « Partir sur la route des francophones ». Cette exposition sera peut-être démontée en 2019, alors courez, courez, courez vite. Il reste donc environ un an pour la voir et l'apprécier. « Partir » présente avec beaucoup de justesse, d'émotion et de force le parcours des Canadiens français du Québec et aussi quelquefois celui de Français, de Belges, de Suisses qui ont évangélisé, colonisé une bonne partie de l'Amérique du Nord, de la Louisiane à l'Alaska. Elle se concentre sur la Nouvelle-Angleterre, le Nouvel-Ontario, les prairies canadiennes et américaines, de même que la Californie. Et je vous rappelle que le nouveau rapport de M. Boileau, François Boileau, commissaire au service en français de l'Ontario, se projette dans l'avenir. Mobilité linguistique en faveur de l'anglais aura contribué au fil des ans, dit-il, au vieillissement accéléré de la population franco-ontarienne. À l'heure actuelle, 15% des 600 000 francophones de l'Ontario sont issus de l'immigration, dont deux fois moins que la proportion des migrants dans la population totale de la province. Une exposition à ne pas manquer au Distillery District de nos partenaires, à qui nous disons bien le bonjour, toute la famille Thompson. Le travail de l'artiste peintre québécois Mathieu Lacca défie le genre du portrait de la manipulation de son médium choisi, la peinture à l'huile, donnant une nouvelle vie à des écrivains comme Charles Bukowski, Gabriel Garcia Marquez, Margaret Atwood ou Michel Tremblay. Son exposition face à face est présentée à la galerie Thompson Landry du quartier de la Distillery District jusqu'au 12 août. On était là, pas tellement longtemps, vendredi, avec des bons amis. De hashtag ONFR, TFO, la France championne du monde de soccer dans l'allégresse de la victoire, hashtag ONFR a rencontré des Français installés en Ontario depuis de nombreuses années, leaders communautaires ou anonymes, des Français anonymes, en Ontario, et oui, ils partagent leur processus d'intégration et leur adaptation à la vie franco-ontarienne. Peut-on vraiment faire confiance, mon cher Sloan, à des invités anonymes, des participants anonymes? Oui, pour un sondage, je comprends. Des fois, c'est tellement délicat le sujet dont on traite. Enfin, le gouvernement de Doug Ford a annoncé le nom des trois membres qui composeront sa commission d'enquête sur les finances publiques mardi dernier, ainsi qu'un audit sur les programmes et services gouvernementaux. Nous savons déjà, et oui, nous avons des sources, les ministères du gouvernement de l'Ontario qui seront affectés par cette commission et cette audit. Est-ce que vous voulez savoir le nom de ces ministères, madame, monsieur? Appelez-nous Notre ami Sloan est là pour répondre à votre appel 86 9 86 7000. Le rapport 2017 de François Boileau, commissaire au service en français, dévoilé cette semaine, fait des vagues. Et oui, on en parle. Et aussi, on parle des plaintes. La commission a reçu en 2017-2018 315 plaintes. Les ministères les plus visés ont été ceux de la santé et des soins de longue durée, ainsi que du procureur général. Le commissaire nous présente un scénario assez sombre sur l'avenir de la francophonie, la baisse anticipée de la proportion de la population francophone en Ontario. Selon mes premières observations, si nos chefs de file francophones ne changent pas de tactique, de stratégie envers les immigrants francophones pour mieux les intégrer dans des postes de responsabilité, et s'il n'y a pas de reconnaissance de leurs diplômes ou un peu d'équité dans nos rapports avec les immigrants francophones en Ontario, je prédis, madame, monsieur, la catastrophe. Et on risque même de perdre les gains acquis pour les franco-ontariens dans les années à venir, car sans le nombre de francophones, il sera difficile de faire justice envers les politiques de plus en plus anti-francophones, anti-autochtones, qui vient de perdre d'ailleurs le ministère avec le nouveau gouvernement de l'Ontario. Il est temps de passer à l'action au lieu des beaux discours ou des rapports. Et oui. Et vous, chers auditeurs, qu'en pensez-vous? Écrivez-nous immédiatement, popourri@cut.fm. Quel service à l'aéroport Pearson de Toronto pour les francophones? Malton Neighborhood Services est financé par le gouvernement fédéral depuis belle lurette, mais sans résultat. Eh oui, une décennie d'abus de pouvoir et de laxisme. Par contre, le centre francophone se dit prêt à relever le défi. Après les récentes crises au centre francophone, on peut se poser des questions sur leur capacité de répondre plutôt aux exigences de ce contrat. D'ailleurs, pourquoi le centre francophone de Toronto doit absolument tout contrôler? Sur la scène fédérale, critiqué pour avoir supprimé les langues officielles du titre du ministre du patrimoine canadien en octobre 2015, le premier ministre Justin Trudeau, Premier ministre du Canada, a annoncé la nomination de Mélanie Joly comme ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie. C'était mercredi dernier, lors d'un remaniement ministériel, un changement qui suscite de nombreuses questions. La création d'un ministère des aînés annoncé mercredi dernier lors du remaniement ministériel du gouvernement fédéral est accueillie favorablement par les aînés francophones qui espèrent que leurs besoins seront mieux considérés. Pour la présidente de la Fédération des aînés et des aînés francophones du Canada, Elisabeth Allard, elle dit, je cite, « avoir un ministère qui donne plus de poids à les dossiers et qui ne seront plus relégués au second rang et puis on peut espérer que l'argent sera dépensé à la bonne place. » En France, mon cher ami Sloan, ça va? Vous êtes toujours content du succès, la victoire des Bleus? Ou de l'Afrique. Plusieurs femmes ont raconté avoir été agressées sexuellement pendant les célébrations suivant la victoire de la France à la Coupe du Monde. Malgré les nombreux témoignages de femmes sur les réseaux sociaux, peu de plaintes de victimes ont été enregistrées. La police française appelle les victimes à porter plainte. Pour ma part, ni alcool, ni l'amour du foot n'excuse de telles agressions. Êtes-vous d'accord? L'euphorie de la Coupe du Monde n'aura duré qu'un court moment pour Emmanuel Macron. La douce émotion de la victoire au pays de Poutine a vite cédé la place à la colère amère du public français. De notre confrère Nad Sivaramen, journaliste à l'Express de l'île Maurice, qui a un papier d'ailleurs dans l'édition du dimanche, je me permets de reprendre quelques grandes lignes de son texte. Un public choqué en découvrant des images publiées il y a quelques jours par le journal Le Monde montrant le garde du corps privé du président de la République française, le désormais notoire Alexandre Benalla, casqué et portant un brassard comme des policiers anti-émeutes, frappant en pleine rue un manifestant le 1er mai dernier à Paris. Avec une violence qu'on croyait disparue dans les démocraties modernes, une scène qui rappelle les tontons macoutes des régimes totalitaires. L'affaire Benalla, en raison de la proximité de Benalla avec le couple Macron, est devenue ce week-end une affaire d'État en France, soit le premier gros scandale politique que doit gérer le régime Macron. Un régime qui avait promis de faire de l'exemplarité le maître mot du président du présent quinquennat de Macron. La République en marche promettait ni plus ni moins un monde nouveau, soit le slogan du parti de Macron. Notre confrère continue en écrivant, mais cela peut arriver qu'un agent de sécurité bouscule quelqu'un. Non. Ce qui gêne dans l'affaire Benalla, outre la violence inouïe contre un opposant politique, c'est la tentative éhontée de l'Élysée, avec la complicité de la police nationale, de protéger une figure de proue de la Macronie. Et ce, en dissimulant les faits au mépris total du respect de la loi et des règles républicaines. C'est sous la pression insoutenable des médias, alors que le sommet de l'État entretenait un silence complice et embarrassé, qu'Alexandre Benalla a été interpellé peu après avoir été tardivement licencié par le chef de l'État français, qui a essayé en vain de protéger celui qui le suivait jusqu'ici comme son ombre. Eh oui, vous êtes gay, vous êtes lesbienne, vous rêvez d'un voyage de noces gay-friendly. Cuba pourrait très prochainement être parmi vos destinations de choix. De la Havane, nous apprenons que le Parlement cubain a commencé à examiner un projet de loi ou de nouvelle constitution, ce qui ouvre la voie à une législation ou légalisation plutôt du mariage entre personnes du même sexe, une des principales revendications de la communauté LGBT de l'île. Selon nos amis cubains, gays, transgenres, exilés à Miami, il s'agit d'un premier pas pour la communauté LGBT de Cuba, mais la lutte ne sera pas facile. Et en 2010, je vous rappelle que Fidel Castro, pourtant peu habitué à verser dans l'autocritique, a reconnu les injustices faites aux homosexuels qui provoquèrent l'exil forcé de nombreux intellectuels et artistes dans les années 60, 70 et 80. Du magazine Jeune Afrique, Maroc, tension sociale, la Royal Air Maroc, des vols annulés. En Tunisie, l'instance électorale s'enfonce dans la crise. La haine de soi de Bourahima Ouattara, romancier africain et cliché exotique en littérature, avec mon tissu préféré sélectionné à Cannes. Cette année, la réalisatrice syrienne Gaïa Djidji livre « Huis clos intimiste sur l'émancipation des femmes au Moyen-Orient ». En Haïti, le chef de l'État haïtien Jovenel Moïse s'est entretenu hier avec des membres de l'Église catholique dans le cadre de la série de pourparlers engagés avec les secteurs vitaux de la nation. Le président Moïse est sommé de s'expliquer dans un délai de 8 jours sur la caravane opaque. L'organisme Solidarité sans frontières a organisé un rassemblement d'urgence samedi, hier, à Montréal, afin de demander un moratoire immédiat sur les expulsions d'Haïtiens arrivés de manière irrégulière au Canada. Crise par-dessus crise, la Maison-Blanche de Trump dans la tourmente. Le président américain a jugé peut-être illégal d'avoir été enregistré à son insu par son ex-avocat lorsque les deux hommes évoquaient la possibilité d'acheter le silence d'une ancienne playmate avec laquelle il aurait eu une liaison. Et oui, comme très souvent, c'est sur Twitter que le président des États-Unis a répliqué au lendemain des révélations de New York Times sur la saisie par le FBI d'un enregistrement où Donald Trump évoque la possibilité d'acheter le silence d'une ex-playmate avec qui il aurait eu une liaison. Le locataire de la Maison-Blanche a mis en cause la légalité de ce document sonore. Affaire à suivre. Que se passe-t-il au Mali pour nécessiter l'aide des soldats canadiens? Nouvellement arrivés au Mali, les troupes canadiennes participent à la mission de l'ONU, prendront part à un conflit qui a de profondes racines historiques et politiques et qui dure depuis plusieurs décennies. C'est très rare d'ailleurs qu'on explique aux Canadiens pourquoi les forces armées canadiennes s'impliquent dans des conflits à travers le monde, y compris en Haïti. Alors selon Rita Abrahamsen, professeure à l'École supérieure d'affaires publiques et internationales de l'Université d'Ottawa, l'un des enjeux du conflit est le manque de représentation politique des peuples du Nord, dont les Touaregs, depuis la création du Mali en 1960. D'ailleurs, la rébellion de 2012 a mené à la proclamation unilatérale de l'État indépendant d'Azawad. Historiquement, les Touaregs sont des peuples nomades établis dans le Sahara, parlant la langue berbère. Ils ont été forcés d'intégrer les nations colonisées majoritairement par la France. La pièce qui fait polémique, de nouveau plongée dans une controverse à Canada, la nouvelle production du metteur en scène Robert Lepage, est critiquée par un collectif de personnalités autochtones. Cette fois-ci, il dénonce l'absence de comédiens des Premières Nations dans la distribution de la pièce Canada. Et oui, Robert Lepage se dit ouvert au dialogue tout en défendant sa liberté de créer. Assez agacé, Robert Lepage a déclaré « À un moment donné, il va falloir que les gens se questionnent sur la liberté de création. » Le spectacle à Canada, qui prendra l'affiche en décembre au Théâtre du Soleil à Paris, suscite une vive controverse, tout comme Slave, qui a été retiré de la programmation du Festival de jazz de Montréal au début du mois. Question : peut-on jouer le rôle d'un homosexuel si on n'est pas gay ? Peut-on et doit-on donner le rôle à un blanc pour jouer le rôle d'un esclave ? Que pensez-vous ? Sloane, je vous ai posé une question. Peut-on jouer le rôle d'un homosexuel si on n'est pas gay ? Ou peut-on et doit-on donner le rôle à un blanc pour jouer le rôle d'un esclave ? Slave de Robert Lepage, levé de bouclier le mois dernier, les Noirs de Montréal en colère. Il reproche notamment au spectacle de Robert Lepage qui met en scène des chants d'esclaves noirs interprétés par Betty Bonifaci de n'inclure aucune personne noire, ni dans sa production, ni dans sa distribution, évacuant du coup, selon eux, la question raciale. Après vérification, 2 choristes sur 6 sont noirs. Un autre sujet qui fâche, madame, monsieur, au Québec ces temps-ci, c'est l'abattage des animaux de consommation selon les rites religieux, heurte de plein fouet les valeurs québécoises, estime le parti d'opposition péquiste. Le parti PQ s'inquiète du phénomène de l'abattage rituel, halal ou cachère, qui semble prendre de l'ampleur au Québec, souvent à l'insu des consommateurs. Notre invité, M. Ledoux, est boucher. Il est en Bretagne en ce moment. Il ne connaît pas vraiment l'abattage rituel halal et il fait appel à un imam pour savoir comment s'y prendre pour bien suivre le rituel halal.
Allô?
Allô?
Oui.
Oui, bonjour, c'est l'ambassade d'Iran?
Ah non, c'est une erreur, monsieur.
Ah, mais où suis-je, là?
Là, c'est une boucherie.
C'est l'Union...
L'Union des abattoirs islamiques.
Oui, c'est la même chose, quoi.
Je pourrais l'ambassade d'Iran, c'est pas la même comme l'Union des abattoirs islamiques, hein.
C'est pas les abattoirs islamiques.
Oui.
Ah bon. Bon, ben, je pourrais parler au patron.
Le patron ?
Oui.
Oui, pourquoi ?
C'est vous-même ?
Oui.
Bonjour, monsieur.
Bonjour, monsieur.
Marcel Ledoux.
Je suis
éleveur. Je vous appelle de Bretagne.
Oui.
Je suis en Basse-Bretagne.
Oui.
Bon, j'ai actuellement un troupeau. Hein? Et alors, j'ai des clients qui sont musulmans.
Oui.
Bon, et qui voudraient que je leur abatte le troupeau pour un banquet qu'ils font selon le rite.
Oui.
Mais alors, c'est quoi le rite ?
Le rite ?
Oui, comment je fais avec mon couteau ?
Le rite, mais c'est-à-dire ça, il faut quelqu'un qui connaisse la religion islamique, la religion islamique. Hein?
Ben, écoutez, moi j'ai mon couteau.
Hein, oui.
J'ai l'animal à côté de moi, comment je fais ?
Vous êtes quoi, vous ?
Moi, je suis éleveur. Ledoux.
L'hindou ?
Ledoux, je suis.
Ah bon ?
Je suis éleveur.
Et vous, mais vous n'êtes pas musulman ?
Non, mais je vais le faire à la façon musulmane, puisqu'on vient de me le commander.
Ah non, vous ne pouvez pas ça.
Pourquoi ?
Parce que là, il faut quelqu'un musulman.
Bon, ben, je vais appeler un voisin, mais dites-moi comment faire.
Oui, mais ça, c'est-à-dire avec un couteau, vous dites le nom de Dieu. Bismillah.
Je dis nom de Dieu.
Voilà.
Alors, nom de Dieu.
C'est Bismillah.
Voilà. Nom de Dieu, Bismillah.
Voilà.
Bon, je prends mon couteau.
Et voilà sur le... Comment ça s'appelle le collier, vous gorgez là, vous tuez la bête là.
La bête est tatouée.
Voilà.
Alors, je prends sous le collier. Voilà. Attends, elle est à côté de moi. Voilà, oui, alors comment je fais maintenant ?
Là, vous prenez le coton.
Oui.
Vous dites Bismillah.
Nom de Dieu.
Bismillah.
Bismillah.
C'est tout.
C'est tout.
Avec le coton... Et voilà, c'est comme ça qu'on fait.
Eh mais putain, ça saigne partout.
Pardon ?
Il y a du sang partout.
Ben oui, bien sûr, il y a du sang partout.
Ben oui, mais vous êtes marrant, c'est sur la moquette de mon canapé. C'est dans le living room. Qu'est-ce que je fais ? Elle est pas morte, la bête.
Ah oui, ben ça, c'est pas moi.
Mais comment on fait? Oui, mais elle n'est pas morte, là.
Ah, elle n'est pas morte?
Non.
Vous attendez.
Bon, alors, je redis Vismila.
Voilà.
Vismila, Vismila, elle ne meurt pas.
Ah, mais il faut attendre, monsieur.
Vismila, elle ne meurt pas. Ben oui, mais enfin, c'est... Parce que c'est... Vous savez, c'est du cochon, hein.
Ah non, non, c'est pas ça, c'est pas la même, hein.
Ah, moi, c'est un cochon, là.
Non.
Quoi, non?
Eh ben, je te dis au revoir.
Nova? Yeah, I'm getting it, man, I'm getting it. Hey, Jessica, check me out.
What's that noise?
It's not noise, girl. It's me on these tables, man. I'm a DJ now.
You're a DJ?
For sure, and Steve has all the gear that you need to be a pro DJ.
Where?
At the back of the store. They got tables, CD players, mixers, samplers, and check out these lights, man.
Wow, awesome.
Oh, no, I'm having a flashback.
415 Queen West, stagemusic.com.
Et oui, explorez le monde du cinéma, partagez, découvrez où que vous soyez. Commencez votre essai gratuit maintenant sur www.mubi.com/fr. Avis à tous les cinéphiles et passionnés de la culture. Explorez le monde du cinéma, partez, découvrez où que vous soyez à travers la planète. Commencez votre essai gratuit maintenant sur www.mubi.com/fr. Abonnez-vous maintenant, 7 jours gratuits sur Mubi en ligne. Mubi, une programmation choisie avec soin, vous propose les plus grands films cultes, classiques, indépendants et récompensés dans les festivals prestigieux. Mubi, du cinéma en ligne, un nouveau film chaque jour. 30 films à découvrir. Téléchargement via Android pour visionnage hors ligne. Jamais, 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 mais plus jamais de pub. Eh oui, Mubi, une sélection de meilleurs films choisis avec soin pour seulement $9.99 par mois. Explorez le nouveau Mubi, la nouvelle vague du monde du cinéma canadien avec notre invité aujourd'hui. Faites partie de Mubi. Commencez votre essai gratuit maintenant sur www.mubi.com/fr.
Vous écoutez Potpourri Show sur CUT 89,5 FM. Une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Potpourri Show, 30 ans déjà. Toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm ou www.popourichaud.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM.
Quand tout a démarré, on n'était pas rassurés. Et puis ça a commencé et on n'était toujours pas rassurés. Mais on vous a vu déterminer les matchs les uns après les autres. Vous les avez gagnés et vous nous avez fait rêver. Commençons par Mbappé. La France peut te remercier. Quand t'as marqué, on a pleuré. Vers la deuxième étoile, à 37 à l'heure t'as filé. En ne laissant aux défenseurs que leurs yeux pour pleurer. Hugo Lloris, faut pas t'inquiéter. Ta bourde en finale, on l'a déjà oublié. Y'a pas à dire, tu plonges vraiment mieux que Neymar. Merci capitaine, tu nous as fait garder espoir. Et toi Kanté, tu es gentil. Tu es petit mais tu as quand même stoppé Léo Messi. Et pour ça on peut te dire merci. Comme à Varane et Umtiti. Les gars, vos têtes nous marquerons à vie. Et puis mon petit Giroud, même si t'as pas marqué, et que devant la télé tu nous as fait râler. Oh, tu es pardonné, car on sait que si nos défenseurs, ils se blessent, tu pourras les remplacer. Et puis il y a Benjamin Pavard, toi qui sors de nulle part avec ta frappe de bâtard. T'inquiète pas, tôt ou tard, ton téléphone va vibrer. Et ça sera le PSG qui voudra t'acheter des milliards. Et puis merci, Rabiot aussi. C'est grâce à toi qu'on a découvert Steven Nzonzi. Sans oublier le meilleur entraîneur de tous les temps, Didier Deschamps. On t'aime même si tu manques d'élan. Oh, grâce à vous, on est comme des fous. La France a fait la fête toute la nuit, heureuse et réunie. On n'est pas prêt de l'oublier, c'est fini, on peut souffler et crier. On est les champions, à vous!
On est les champions! C'est la France qui a gagné, madame, monsieur! Que la Croatie, combien de buts? 4 buts? 4-2. 4-2. 4-2, hein, il faut le faire.
Ouais, oui.
Et où étiez-vous en 1998?
J'avais à peine 2 ans.
Ils sont nombreux, hein, les gens, les supporters des Bleus.
Ah ouais. Ah ouais.
Y compris à Toronto, hein, ils étaient nombreux. Ah oui, cher ami, ça va, vous avez bien fêté.
Ah oui, j'ai bien
fêté. C'était une surprise pour vous?
Pas vraiment, je m'y attendais vraiment. Bon, moi je suis un peu fan du Brésil aussi. Après le départ du Brésil, c'était
comment
bon.
Comment expliquer là... justement que le Brésil, l'Allemagne, éliminé tout de suite, au tout début, hein?
Ah ben, c'est le foot.
Par le Mexique.
C'est le foot, eh oui.
Non mais comment, moi j'arrive pas à... Et l'Angleterre.
Bon, au moins, eux, ils ont été en semi-finale. Donc, ils sont finis, je pense, quatrième.
Oui.
Mais si la France, ça m'a pas surpris du tout.
Paris, Londres, Rome, Toronto, Montréal, New York, aux quatre coins de la France et du monde. Les journalistes de Radio France Internationale et de médias partenaires ont immortalisé la joie des supporters tricolores au coup de sifflet final de France-Croatie. Dimanche dernier, 15 juillet, on était en direct à l'émission et on suivait, on faisait double jeu. Et oui, on trichait, madame, monsieur, on a triché. Pour vous dire la vérité, la semaine dernière, notre tête n'était pas à 100% à l'émission. Attention, nos reportages contiennent une forte dose de sourires et de nombreuses reprises par une foule en délire. Un peu partout à l'étranger, on célèbre ou on critique les racines africaines des champions du monde 2018. En France, en revanche, l'existence de ce débat sur les origines des joueurs semble surprendre, voire parfois agacer. Qu'en pensez-vous?
Moi, avant tout, Eric, moi j'ai vu une équipe de France, tout court. Et je pense que la France connaît déjà assez de tensions politiques et sociales pour que même ce qui les réunissait historiquement les sépare aujourd'hui. Donc je trouve ça que c'est vraiment dommage qu'on retourne sur les origines de ces joueurs-là quand ils sont français, ils ont grandi en France, certains sont nés en France, et si vous les emmenez en Afrique, ils vont se perdre. La France est leur pays.
Il y a beaucoup de débats, hein, moi qui fais la navette, le va-et-vient entre la France et Toronto ou le Canada. Il y a encore du travail à faire dans cet esprit de partage et de reconnaissance de toutes les cultures et surtout de la communauté noire de France. Moment historique, madame, monsieur, de retour avec les Bleus champions du monde.
L'euphorie collective s'est emparée de la capitale. Les grands boulevards, la place de la nation... ou la place de la République. Dans chaque artère parisienne, les scènes de liesse se répètent. La victoire des Bleus a fait descendre des centaines de milliers de personnes dans la rue.
Être à Paris ce jour-là, mais c'est génial. Là, on se dit qu'on vit un moment historique. Dans 20 ans, on s'en souviendra encore.
Je suis très content. Croatie, elle a perdu, c'est bien fait.
Au fur et à mesure de la soirée, les Champs-Élysées, déjà noirs de monde pendant le match, se remplissent de plus en plus. Une foule très jeune, qui n'avait souvent pas connu la première Coupe du Monde remportée par la France il y a 20 ans.
En 98, j'avais que 2 ans, je ne pouvais pas vivre ça. Mais là, je suis heureux. On va avoir la deuxième étoile, je suis l'homme le plus heureux aujourd'hui.
C'est nos parents nous parlent de 98 depuis qu'on est né. Et le vivre en 2018, c'est vraiment une histoire forte.
Voilà. C'est magnifique.
Et on est fiers de la France, des banlieusards qui ont fait ça pour la France, des N'Golo-Kanté, des Tolisso, des... On est fiers!
Les noms des joueurs et leur ville d'origine s'affichent dans la soirée sur l'Arc de Triomphe. Le point culminant d'une soirée historique. avant les festivités prévues ici lundi après-midi lors de la parade des joueurs.
Pourquoi donc la moitié de la planète s'active quand l'autre dort ?
En principe, c'est les passagers, c'est eux qui mettent de l'ambiance.
Apportez-moi plutôt une glace.
Vivez au rythme du monde. Écoutez RFI.
Eh oui, la victoire des Bleus rend les Français optimistes. Selon le Sacre des Bleus, dimanche dernier, une vague de commentaires racistes déferle malgré tout sur les joueurs de Didier Deschamps, surtout en Italie.
Ah oui.
Je pense que c'est le pays.
Ils n'ont pas raté ça.
Ah oui, oui, oui. Si aucun des footballeurs portant le maillot de l'équipe de France ne se demande s'il est bien français, à l'étranger, les photos et commentaires dénonçant l'origine africaine de 14 à des 23 joueurs se multiplient. En Italie, la victoire des tricolores a suscité un flot d'insultes sur les réseaux sociaux et des commentaires racistes, à l'instar de ces quelques lignes publiées dans la Corriere della Sera à propos de l'équipe de France, une équipe pleine de champions africains mélangés à de très bons joueurs blancs. Au Venezuela, le président Nicolas Maduro s'est aussi saisi de la victoire de la France pour en faire une tribune. Il dit, je cite, « L'équipe de France ressemblait à l'équipe d'Afrique en vrai. C'est l'Afrique qui a gagné, les immigrants africains qui sont arrivés en France. L'Afrique a tellement été méprisée et dans ce mondial, la France gagne grâce aux joueurs africains ou fils d'Africains. » Et de poursuivre, halte au racisme en Europe contre les peuples africains, halte à la discrimination contre les migrants. Je souhaite que la France et l'Europe réalisent que nous, ceux du Sud, les Africains, les Latino-Américains, nous avons aussi de la valeur et du pouvoir. Barack Obama a tenu à nous défendre. C'est le zapping actu qui fait la une des manchettes sur les réseaux sociaux ces jours-ci en France.
En Italie, en tout cas, Eric, moi personnellement, ça ne m'a pas surpris du tout, tout comme la victoire de la France en finale de Coupe du Monde. Déjà, il y a eu plein d'histoires en Italie avec des joueurs noirs comme Mario Balotelli, qui à plusieurs reprises a dû quitter le terrain, rentrer au vestiaire. Et il a été malheureusement sanctionné pour ça, il y a quelques années. Donc les propos racistes, ça continue toujours en Italie. À chaque fois dans un grand championnat, qu'il y a un match important, et que le joueur c'est une star, ben on utilise ça pour le faire baisser les gardes. C'est bien dommage quand même de voir ça dans le foot aujourd'hui.
Je rappelle aux gens que moi je suis arrivé dans l'ère de Trudeau, le père de Justin Trudeau, et il y avait un intérêt vraiment flagrant, hein, on disait ça ouvertement, à l'époque le ministère de l'éducation de Pierre-Éliott Trudeau faisait tout pour avoir et donner la nationalité canadienne rapidement aux grands sportifs venant des autres pays, y compris des artistes, des musiciens. J'étais là, témoin, j'ai vu, j'ai entendu. Et parce que le Canada reconnaît que dans cette diversité, que ce soit linguistique, culturelle, il y a une force à apporter au niveau de la culture, mais aussi au niveau du sport.
Justement, justement. Et c'est ce que les gens ils ne comprennent pas pour la France, par contre. Les gens qui lancent des propos racistes sur Internet, tout ce qu'ils savent de la France, c'est Paris et les baguettes. Ils ne savent pas qu'en France aussi, nous avons une forte population très diversifiée. Et c'est normal qu'aujourd'hui, il n'y ait pas un système de quotas comme autrefois dans l'équipe de foot pour avoir le maximum de joueurs possibles qui puissent vraiment représenter la France, non pas par les couleurs de la peau, mais par l'efficacité.
Et je rappelle aux gens que j'étais très surpris de certains membres qui font partie de notre page Facebook pour Pourri Chaud. Je ne citerai pas de nom, mais j'étais très, très dérangé de lire les propos de certains auditeurs de la région de Toronto. Je ne dirai pas non plus de quelle nationalité ils sont issus, mais j'ai été frappé de voir la tonalité raciste de leurs commentaires pour justement justifier, à préserver la culture blanche européenne ou encore française. Nos amis de RFI et des autres médias France 24, entre autres, sont allés dans les rues de New York et dans le monde. Écoutons ensemble mon cher ami Sloan Ballant. Vous êtes tout de bleu aujourd'hui, c'est bizarre.
Oui,
hein
ah.
C'est bizarre. En direct
la
à New York.
Des grands jours dans cette avenue de Manhattan à New York. Des centaines de personnes rassemblées pour assister à la finale de la Coupe du Monde de football, un sport pourtant peu populaire aux États-Unis. La plupart des spectateurs sont français. Ils sont 35 000 à New York. Au coup de sifflet final, leur joie éclate.
Great, great. We are super happy. We are world champion.
Même bonheur des soldats français de l'opération Barkhane, basée à Niamey au Niger. La finale pour eux, un grand moment de détente. Ambiance de folie à Yaoundé au Cameroun, où a été installé un village de la Coupe du Monde pendant toute la compétition. Ici, Camerounais et expatriés ont assisté ensemble à la finale. La victoire de la France, célébrée aussi à Abidjan. Ici, c'est à l'Institut français que le match était diffusé. Des Ivoiriens avaient revêtu les couleurs bleu-blanc-rouge.
Nous sommes contents de la victoire de la France car c'est un pays qu'on soutient, c'est un pays qu'on aime très bien et ça nous fait vraiment plaisir.
À des milliers de kilomètres de la France et de la Russie, cette finale a fait vibrer les amoureux du football.
Et oui, il faut le voir, il faut le faire. Alors, même s'il n'y a pas une culture de soccer aux États-Unis ou au Canada, les gens quand même ont suivi.
Bien sûr,
pendant deux mois.
C'est après tout une Coupe du Monde.
Alors, l'ex-président américain Barack Obama nous a donné son grain de sel. Et même le présentateur de télé américain Trevor Noah, que vous connaissez sans doute, ont évoqué le sujet. Que pensez-vous de cette polémique à l'international sur les racines africaines des footballeurs français champions du monde 2018 ? Patrick Mignon identifie les choses différentes. C'est un analyste de la culture du sport aussi, très connu parmi les Français. Et il dit, j'identifie les choses différemment. D'un côté, si on reprend l'humoriste américain Trevor Noah, on a une sorte d'expression de la manière américaine de traiter la question des identités. Si on prend Nicolas Maduro, président vénézuélien, on a un discours tiers-mondiste. Et on prend les Italiens de Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur italien. On a là un discours nationaliste, xénophobe et raciste qui est présent de plus en plus fortement en Europe. Si on va du côté du magazine Burkinabé, qui a, semble-t-il, lancé un petit peu l'affaire, il y a quelque chose qui relève de la revendication d'un continent de sa part dans un événement français. Il faut dire que il y a eu des embrouilles entre l'Afrique et la France depuis très longtemps. Et je pense que Macron est en train de redorer le blason français et de redonner une place un peu plus positive en Afrique, mais on verra bien. Nous écoutons cette fois-ci, madame, monsieur, la victoire des Bleus Coupe du Monde. Polémique autour de l'équipe de France, la victoire des Bleus continue de faire des vagues. D'un côté, les commentaires racistes se multiplient. De l'autre, des politiques comme Barack Obama vante la diversité des joueurs français.
Une liesse populaire et une marée de drapeaux bleu, blanc, rouge, les trois couleurs l'attestent, la victoire est bien française. Mais comme la France, son équipe de foot n'est pas que blanche et ça ne passe pas inaperçu. Certains racistes le regrettent, d'autres, parfois haut placés, se félicitent de sa diversité.
L'équipe de France a gagné. Même si on aurait dit l'équipe d'Afrique. Donc c'est l'équipe d'Afrique qui a vraiment gagné.
Et puis il y a cet animateur satirique américain, Trevor Noah, d'origine sud-africaine. En blaguant à moitié, il jubile, l'Afrique a gagné la Coupe du Monde. Inacceptable, selon l'ambassadeur français aux États-Unis, Gérard Haro, qui publie cette lettre ouverte.
21 des 23 joueurs sont nés en France, ont été éduqués en France et ont appris le football en France. En les qualifiant d'équipe africaine, vous donnez l'impression de nier leur francité. Même en plaisantant, cela légitime l'idéologie qui prétend que la blancheur est la seule définition du fait d'être français.
L'affaire devient diplomatique et la réponse de l'animateur est cinglante.
L'équipe de France est plus le reflet du colonialisme français que de la diversité. Pourquoi ne peuvent-ils pas être les deux, français et africains? Quand ils sont au chômage, ce sont des immigrants africains. Mais quand ils gagnent la Coupe du Monde, ils ne sont plus que français.
Plusieurs sportifs français aussi ont réagi, comme le virulent basketteur Nicolas Batum, ou encore Benjamin Mendy, le seul bleu à s'être prononcé. à un site sportif qui mettait en avant les origines des champions. Il répond sur Twitter avec 23 drapeaux français. C'est corrigé, conclut-il, avec un clin d'œil.
Réaction ?
Incroyable. Ah ben, j'aime rester dans le domaine sportif. Et je trouve que c'est bien dommage, à chaque fois, je le répète, qu'on rapporte la Coupe du Monde à des faits politiques, sociaux. Donc moi, j'aimerais bien qu'on garde la France comme équipe championne, tout court. De ramener le fait que les joueurs français soient d'origine africaine ou d'ailleurs, je trouve que c'est injuste, car comme il a dit, c'est des gens qui ont été élevés, qui ont été grandis en France. Déjà, Eric, il y avait les équipes africaines de la Coupe du Monde qui l'ont malheureusement pas remporté. Donc c'est l'éducation de foot qu'ils ont eue en France qui les ont permis d'être là aujourd'hui, qui ont permis à la France de gagner la Coupe du Monde. Qu'ils soient bleus, qu'ils soient rouges, verts, jaunes, c'est des Français tout court.
Et il y a un Mauricien hein, qui de l'équipe PSG de Paris qui devait passer à l'émission, mais peut-être très prochainement, et il ne joue plus maintenant, mais il a passé des commentaires assez acerbes. Comment la polémique sur les joueurs africains des Bleus a fait le tour du monde, sauf en France.
Yes, I'm so excited. Africa won the World Cup. Africa won the World Cup.
Je pense qu'il y a beaucoup d'origines ici. C'est ce qui fait la France une belle France, de belles couleurs. Vous voyez, il y a des origines, c'est comme ça. Si vous voyez aussi en 98, la France d'aujourd'hui, c'est une France avec plein de couleurs. Ça ne veut pas dire. On se sent tous français. On est heureux de porter ce maillot. On est heureux. Moi, je suis très heureux d'avoir grandi en France, avoir la culture française, même si je suis parti très tôt à l'étranger. Mais voilà, la France, elle est belle comme ça, c'est comme ça qu'on l'aime et c'est comme ça qu'on l'aimera toujours.
Et oui, madame, monsieur, réaction, là c'était un jeu des joueurs. Quel est votre joueur préféré d'ailleurs?
Moi, Ronaldo et Zidane.
Et Mbappé. Dur.
Mbappé,
comment
il reste encore du chemin.
Comment
il reste encore du chemin.
19 ans, oui. C'est un exploit.
Il est admirable, bien ouais. Sûr, bien sûr.
Mais maman algérienne, papa camerounais, mm-hmm. Né en France, et on trouve toujours qu'il est un étranger. Il n'est pas français.
Non, il est totalement français.
Et ce que j'ai aimé, d'ailleurs tous les journaux en parlent, très simple, humble,
ah oui.
Il a donné son argent à des œuvres caritatives. Oui.
Je pense que c'est la force de cette équipe de France aussi. Il y a tellement de joueurs qui sont humbles. Mmh. Ce que nous n'avons pas eu les Français en 2006 ou en 2010. Il y a vraiment des joueurs qui sont très talentueux, mais humbles. Mmh. Donc ils se sont mis ensemble et nous ont donné ça.
Oui. Et Trump aussi a regardé la Coupe du Monde. Trump News. Il se passe des choses. Hein. Est-ce qu'en Haïti, on a suivi la Coupe du Monde? Oui.
Ah oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr, bien sûr.
Il y a une culture de soccer en Haïti?
Ah oui, très forte.
Ouais.
Quand c'est la Coupe du Monde, nous avons tout le monde dans les rues, des voisins qui se mettent ensemble.
Ben.
C'est impossible de le regarder tout seul.
Ouais. Moi, j'étais gardien de but.
Ah vraiment?
Ah. Mais là, j'avais quoi? 12 ans, 13 ans?
Ah bah je vais vous amener à jouer avec moi.
Oui, oui, oui. Et vous jouez, vous jouez au soccer à Toronto. Il y a des équipes.
Oui, pas au niveau professionnel, plus au niveau professionnel à cause de mes blessures, mais je joue encore, oui.
Ouais. Vous êtes blessé?
Oui.
Ouais. Alors il faut faire de la radio.
Voilà. Ah oui, on essaie d'autres choses.
Mais il faut bien apprendre à vos verbes. I would. Allez, monsieur Trump, à vous la parole.
Welcome back to TNN, the only news network that tells the truth and nothing but the truth, so help me, Vlad. Let's get to tonight's big story. Me. Everyone is still talking about my big summit with Putin. It got huge ratings. Huge. I would do it all over again if I could, or maybe I would not if I could not. It's a real woulda, coulda, wouldn't, shoulda, should not, woulda, coulda, wouldn't, would not, could not, shouldn't situation.
Anyway, some people are upset because I said I believe Putin more than I believe our own intelligence agencies. They're very upset. That's not true. I love our intelligence agencies. I have all my faith in the FBI, CIA, NCIS, CVS, and Law and Order SVU. In other important news, me again. I just went on a big, exciting European vacation. I saw so many great sights. Big Ben, Parliament, Big Baby, Parliament, Big Ben. While I was there, I also met everyone's favorite grandma, Queen Elizabeth. It was a little awkward because when she first saw my hair, she took it for a walk with one of her corgis. But I love getting to inspect the Royal Guard, or as I like to call them, the British Rockettes. Nextly, sports. I'd like to congratulate the French for winning the World Cup. France is a fantastic country. I love their toast. Also in France, they call soccer football, but it's more like foosball, except the players are real. They aren't people made out of wood. They're people made out of wouldn't. That should clear things up. Oh, the lights are going out again. That means we have to go to commercial break. We'll be right back with more TNN, everybody.
C'est fou, hein?
Ah oui.
Beaucoup, beaucoup de réactions. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Et encore une fois, merci à tous nos auditeurs qui nous envoyaient des messages, des photos. Il y avait aussi cette photo culte du président Macron, vous avez vu?
Ah oui.
Au stade.
Oui.
Il se prenait pour qui, là? Mais c'est incroyable, ça a fait le tour de la planète.
Ah oui, ah oui. Mais j'ai quand même aimé l'interaction du président avec les joueurs de la sélection.
Oui.
C'était quand même beau à voir. Ça fait longtemps.
Dans 4 ans, où serez-vous et pour quelle équipe allez-vous voter?
Bon, moi, dans 4 ans, j'espère que le Canada sera dans la Coupe du Monde déjà.
Le Canada?
Ah oui.
D'ailleurs, il y aura une Coupe du Monde au Canada, au Mexique et aux États-Unis,
oui.
Hein, mm-hmm. En 2026?
Oui. À peu près, oui.
Oh, je serais très vieux à ce moment-là.
Ah,
oh,
quand même,
Eric, pas
tellement.
Hein. I wouldn't.
Non.
I wouldn't. Merci beaucoup.
Écoutez la planète chanter.
Rappelle à ton souvenir.
Ai, maman, voilà le voile.
Adra ben la cosa, adra ben la cosa, ding et dong.
Non,
ding et dong et dong.
Écoutez la planète chanter.
Jusqu'à la fin, ils ont mouillé le maillot. Ouais, ils l'ont fait, franchement chapeau. Une étoile de plus sur le maillot.
Enfant de la patrie.
CIUT 89.5 FM, the station that brings you funk, soul, and everything in between on Higher Ground with Jason Palma. Thursday nights at 8.
CIUT 89.5 FM, the sound of your city. CIUT 89.5, Toronto.
Maxime Jacquelin.
L'essentiel de l'actualité internationale, et on commence par l'affaire Benalla qui occupe toujours le devant de la scène en France. Les gardes à vue des cinq suspects dont Alexandre Benalla ont été levés hier soir. Ils vont donc pouvoir être présentés à un juge d'instruction dès aujourd'hui. Le ministre de l'Intérieur, lui, sera entendu par les députés lundi alors que l'opposition ne décolère pas. Deux ans après, il réclame toujours justice. Quelques 1500 personnes ont manifesté hier près de Paris pour demander à l'État la vérité sur la mort d'Adama Traoré. Pas d'oubli, pas de pardon, c'est derrière ce mot d'ordre qu'ils ont dénoncé la lenteur de la procédure. À noter, fait plutôt rare que toutes les formations politiques de gauche étaient représentées dans le cortège. Le cessez-le-feu semble tenir à Gaza. Un calme précaire est revenu à la frontière avec Israël hier. Après une vague de violence, un cessez-le-feu avait été annoncé par le Hamas. Aucune confirmation côté israélien, mais les armes se sont bien tues ces dernières heures autour de l'enclave palestinienne. Les conservateurs espagnols mettent un peu plus la barre à droite. Après la chute de Mariano Rajoy, c'est le jeune Pablo Casado qui a été désigné à la tête du Parti Populaire. Il devra remettre en ordre de marche un parti miné par les affaires de corruption. La guerre commerciale aura de lourdes répercussions sur la croissance mondiale. C'est l'avertissement lancé hier par la directrice du Fonds monétaire international en ouverture du G20 entre les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales. Dans le viseur de Christine Lagarde, notamment la politique protectionniste mise en place par l'administration de Donald Trump. Xi Jinping est arrivé hier à Dakar, première étape de la tournée africaine du président chinois, et il a déjà promis de renforcer les liens économiques entre la Chine et le continent africain. Pékin est déjà devenu depuis une dizaine d'années le premier partenaire commercial devant les États-Unis. Et puis c'est la fin d'un long calvaire. Michael Blanc a quitté l'Indonésie après 14 ans passés derrière les barreaux. Il avait été arrêté en 1999 à Bali pour trafic de drogue, mais il a toujours clamé son innocence. Il est désormais libre et attendu en France dans les prochaines heures.
RFI, la radio mondiale.
Il y a bientôt 15 ans, RFI, une trentaine de radios d'Afrique et de l'océan Indien, décidaient de se réunir afin de créer un concours permettant aux artistes du Sud de sortir de leur isolement et d'accéder à la scène internationale. Ainsi naquit le concours Découverte, qui s'est progressivement ouvert à toute l'Afrique francophone, puis anglophone et lusophone, et enfin aux Caraïbes et à l'Amérique latine. Découverte est donc bien aujourd'hui le plus grand concours musical au monde. Mais revenons à 81. Le grand gala clôturant le concours se passait à Dakar, parmi les lauréats, Nawa Doumbia du Mali.
Oui, mesdames, messieurs, bienvenue, re-bienvenue à notre deuxième heure de Potpourri à travers le monde, l'émission qui vous mène jusqu'au bout du monde depuis 31 ans. Aujourd'hui, je vous rappelle, nous allons rendre hommage à notre façon à Claude Lanzmann, décédé le 5 juillet dernier, auteur de Shoah et mémoire du XXe siècle, écrivain, philosophe et journaliste français grâce à France 24. Mais d'abord, mon cher Sloan, j'ai un cadeau pour vous et pour tous les amis haïtiens qui sont à l'écoute. Un des plus grands DJ de la place de couleur tropicale et de nos amis radio partenaires en Haïti vous présente le DJ number one. Gary.
Messieurs, dames, la société, bonjour. Comment nous y abandonner le système?
Brele Chango, la jour pas nous même pas que si un contrat qui d'être m'a payé, dis-moi non. Ou m'a dit tout, t'as gagné bac décoré. Hey, quand j'ai croisé pied sous l'estomac, mais oh, à Oshonago, non, ce bac qui va son pas sonner, mais pas très les papas, dis-moi non. M'a découvert dans l'habitation. Hey! La Côte Guinée, Paris, Chimé, moi. Moi, dis, fait, pépé, fait. Sans j'ai mis trois fois. Bon, moi, justice, moi, oui. Moi, innocent.
La misère, pas tomber sous pied.
Oui! Juste à même.
Thank you. Suis-je tombé?
La planète Terre.
Bonjour.
RFI.
RFI, on en fait tout un monde.
Écoutez est la plus grande des qualités. Écoutez les enfants. Les parents, les professeurs et les coéquipiers. Les discours fous des pionniers. Écoutez votre instinct et croyez en vos idées. Écoutez votre cœur et les visions encore inexprimées. Écoutez le présent et les échos du futur. Ne pas seulement entendre, écoutez. Parce que c'est seulement quand nous écoutons que nous pouvons comprendre. Que nous pouvons trouver des solutions intelligentes, que nous pouvons progresser. C'est seulement en écoutant ce qui compte que nous pouvons créer des solutions qui comptent elles aussi. C'est de là que tout provient. Ce n'est pas seulement en nous, c'est notre nous.
Hommage à Claude Lanzmann, le réalisateur de Shoah et écrivain. S'est éteint le jeudi 5 juillet à Paris à l'âge de 92 ans. Des personnalités venant d'univers variés commémorent ce combattant de la mémoire. Françoise Nissen, Bernard-André Lévy, Serge Amoati, Gilles Jacob. Ils s'accordent tous sur la perte d'un homme d'exception. Qui est Claude Lanzmann? Il était un homme aux multiples facettes. Dans sa jeunesse, il a échappé de peu à la barbarie nazie, puis a combattu ce régime dictatorial. C'est en 1985 qu'il se fait connaître grâce à la diffusion de son film documentaire Shoah. 12 ans de travail pour 9h30 de témoignages bouleversants. Le réalisateur s'est éteint à Paris à l'âge de 92 ans. Il a laissé derrière lui un monde de la culture endeuillé. Des personnalités d'univers variés lui rendent désormais hommage à travers des messages de reconnaissance. Andrée Azoulay, directrice générale de l'UNESCO, rend hommage à Claude Lanzmann dans un communiqué, un homme aux mille vies et qui a rendu accessible l'inaccessible. Lui qui a profondément marqué l'histoire du cinéma était aussi journaliste, philosophe, directeur des temps modernes, écrivain engagé, sans concession au tempérament passionné, écrit-elle. Claude Lanzmann a imposé les images contre l'oubli, l'art contre les négationnistes. Il était ce grand homme qui, avec Shoah, a contribué à construire avec justesse notre mémoire collective. Oh non, Claude Lanzmann vient de mourir? Je le croyais immortel. Son œuvre l'est. Je pense à Shoah, bien sûr. Il avait su regarder en premier ce combattant à la caméra, la mort en face. Un monument, un terrible chef-d'œuvre. Adieu aux héros. Alain Chouraki était sur France 24 pour rendre hommage à Claude Lanzmann. Il est directeur de recherche émérite au CNRS et président fondateur de la Fondation du Camp des Mille. Il a dirigé plusieurs publications sur les grands enjeux sociétaux, notamment pour résister à l'engrenage des extrémistes, des racismes et de l'antisémitisme. C'est aux éditions Cherche à Midi, publié en 2015. Et Petit manuel de survie démocratique, Fondation du Camp des Mille, et c'est gratuit si cela vous intéresse. Rendez-vous sur France 24.
Et pour nous parler de Claude Lanzmann, j'accueille Alain Chouraki. Vous êtes président de la Fondation du Camp des Mille. Ce fut un camp d'internement situé en zone libre à Aix-en-Provence, où plus de 10 000 personnes ont été internées, et surtout 2 000 juifs déportés donc vers Auschwitz. Vous êtes aussi directeur de recherche émérite au CNRS. Je vous remercie beaucoup de nous apporter ce soir votre regard sur la disparition de Claude Lanzmann. Est-ce que vous pourriez tout d'abord nous expliquer en quoi l'œuvre de Claude Lanzmann a transformé notre rapport à cette page inhumaine de notre histoire ?
D'abord, merci effectivement de me donner l'occasion de témoigner pour un homme qui avait une intensité aussi bien affective qu'intellectuelle, tout à fait exceptionnelle, tout à fait extraordinaire. Autrement dit, ce n'est pas un hasard, évidemment, si cette œuvre monumentale que constitue ce film Shoah, mais que constitue globalement toute l'œuvre de Claude Lanzmann, eh bien, si cette œuvre monumentale a été faite par un tel personnage extraordinaire. Et son départ, son décès, c'est un nouveau rappel après celui de après la mort de Simone Veil, après la mort d'Elie Wiesel et de tant d'autres, c'est un nouveau rappel que nous sommes maintenant ceux qui devons poursuivre cette mission. Une mission qu'il a effectivement lui-même, cette mission de transmission bien sûr, qu'il a lui-même fait vivre d'une façon très, très particulière. Son film, c'était vraiment un film sur l'humain et l'inhumain dans l'homme. Lorsqu'on voyait les visages de ceux qu'il a interviewés, on voyait bien sûr une victime, un bourreau, un Polonais, un Juif, un Allemand, mais on voyait très vite, d'abord, un humain. Un humain qui s'était, un humain ordinaire, un homme ordinaire qui s'était retrouvé dans le chaos de l'histoire, qui avait su résister à des engrenages terribles, ou au contraire, qui avait été emporté par tout cela, soit pour collaborer, soit pour être bourreau, soit bien sûr pour être victime. Et c'est toute cette humanité-là, éternelle, je dirais, qui nous parle encore aujourd'hui et qui nous alerte encore aujourd'hui. Moi, c'est cela surtout. Il y a plusieurs manières de montrer que la Shoah n'est pas en aucune manière un rapport entre une guerre entre juifs et nazis, mais une expérience de l'humanité formidable. Il y a évidemment l'art, hein, le ressenti, il y a la science, les sciences qui montrent à quel point les mécanismes individuels, collectifs, institutionnels de l'époque sont récurrents, surtout quand on les rapproche d'autres génocides. Bon, il y a tout ça, mais il y a aussi cette manière qu'il a eue et que le seul il a pu avoir lui-même, c'est ce visage, ces visages par lesquels il a rendu intemporel cette expérience de l'humanité.
Alain Chouraki, où Claude Lanzmann puisait-il son élan ?
Alors, je crois qu'il le puisait avant tout dans, bon, bien sûr dans sa propre nature, mais dans sa nature en réaction à ce qu'il avait vécu comme résistant, à ce qu'il avait pu entendre autour de lui, voir. Cela avait, comment dirais-je, forgé son âme d'une façon extrêmement forte, un peu, je ne veux pas faire de comparaison, mais vous voyez, j'en fais quand même, mais peut-être un peu comme Simone Veil. Il y a des êtres que cette histoire détruit, et il y a des êtres que cette histoire terrible, magnifie.
Je vous remercie infiniment, Alain Chouraqui, pour ces éléments, ce témoignage, cette déclaration d'amour aussi que vous faites à cet homme qui nous a quittés. Donc, aujourd'hui, Claude Lanzmann décédé à l'âge de 92 ans. Et je précise que le camp des Milles diffusera Shoah tout l'été en continu dans ses espaces d'exposition.
Merci à France 24 et merci à Alain Chouraqui qui était sur France 24 pour rendre hommage à Claude Lanzmann. Élu et vu pour vous, indésirable, 1938 à la conférence d'Évian et les réfugiés juifs aux éditions Brochet. C'est Diane Afumado qui est Chief of Research and Reference Branch of USMM, Musée du Mémorial de l'Holocauste des États-Unis, qui vient de publier ce livre que je suis en train de lire. Au cours des années 30, le durcissement constant de l'Allemagne hitlérienne envers ses citoyens juifs contraint bientôt ces derniers à l'émigration. En juillet 1938, à l'initiative du président américain Franklin Roosevelt, se tient à Évian, en France, une conférence internationale destinée à trouver un refuge à des dizaines de milliers d'exilés juifs pour la plupart. Et sous l'égide de la SDN et de l'Office Nansen, elle réunit une trentaine d'États, essentiellement européens et sud-américains. L'auteur décrit l'évolution de la crise des réfugiés après la Première Guerre mondiale et les tentatives pour répondre à ce phénomène nouveau à l'échelle internationale, notamment à travers le travail de la SDN et de l'Office Nansen. Quelles solutions proposer? Quel refuge offrir à ces exilés? Les États sont-ils prêts à les accueillir, quitte à braver une partie de l'opinion publique? Dans un contexte marqué par le nationalisme et un climat grandissant de méfiance, quel effort peut-on demander aux démocraties occidentales? Et comment concilier en un discours d'ouverture et d'accueil alors que, à partir de l'été 1936, du fait de la révolte arabe, la Grande-Bretagne va progressivement fermer les portes de la Palestine à l'immigration juive. La conférence d'Évian fut un échec. 4 mois avant la nuit de cristal, elle entérinait aux yeux de Berlin l'abandon des Juifs par les démocraties, un signal que le Reich hitlérien saura entendre en durcissant sa persécution anti-juive sans craindre de plus ample réaction. C'est un livre à lire absolument disponible sur Amazon.fr, si cela vous intéresse, pour mieux comprendre le passé, l'histoire et ces atrocités de notre monde. Et il me semble que l'histoire se répète de nos jours. Indésirable, 1938, la conférence d'Évian et les réfugiés juifs aux éditions Brochet, Diane Afumado, que j'espère un jour nous aurons le plaisir de rencontrer. A-t-on vraiment marché sur la Lune? Parce que nous célébrons un anniversaire. Le 21 juillet 1969, l'astronaute américain Neil Armstrong, où étiez-vous, mon cher ami, en 1969? Neil Armstrong est le premier homme à poser le pied sur la Lune. Depuis ce jour, quantité de livres et de documentaires ont accusé le gouvernement américain d'avoir monté de toutes pièces la mission Apollo 11. Un petit pas pour l'homme, un bond de géant pour l'humanité. Le 21 juillet 1969, l'astronaute américain Neil Armstrong prononce cette phrase devenue mythique en posant pour la première fois le pied sur la Lune, suivi par Buzz Aldrin, 18 juin 2009. La NASA lance aux sondes pour préparer le retour des Américains sur l'astre en 2020. Et entre ces deux dates, quantité de livres et de documentaires ont permis en cause la mission spatiale Apollo 11. Et si personne n'avait jamais marché sur la Lune, en 1974, Bill Kaysing, ancien employé de Rocketdyne, une entreprise américaine sous-traitante de la NASA, fabriquant des moteurs de fusée, exprime le premier ses doutes dans un livre « We never want to the moon, and we never went to the moon, America's $30 billion swindle. » Nous ne sommes jamais allés sur la Lune, une escroquerie américaine à 30 milliards de dollars. Pour lui, c'est certain, la NASA ne disposait pas d'expertise technique suffisante pour mener à bien une telle entreprise. Elle a donc travaillé de pair avec la Defense Intelligence Agency des États-Unis pour monter un canular, la concurrence exacerbée avec les soviétiques dans la course de l'espace justifierait la supercherie. En 1999, soit après 30 ans, après la mission d'Apollo, un sondage Gallup Poll aux États-Unis révèle qu'il y a encore 6% d'Américains qui pensent que le gouvernement a falsifié, truqué toute cette histoire. Incroyable. Le dernier CD de notre amie Julie Kim de Toronto, une vraie franco-ontarienne, madame, monsieur, qui était à l'émission le mois dernier. Dans un instant, nous allons passer à notre franco-ontarienne, une autre franco-ontarienne qui fait ses débuts au festival du documentaire Hot Docs, titré le titre de Radio-Canada l'année dernière. Elle présentait son film, huitième film d'ailleurs en carrière, le documentaire Maison du Bonheur. Qui est-elle? Sophia Bodanovic sera des nôtres dans quelques minutes et nous présentera aussi Mubi, festival de films en ligne dans un instant. Et merci à tous ceux et celles qui nous ont appelés, qui ont réagi à nos émissions depuis, enfin, nos sujets depuis 11h. Popourri Show, l'émission qui vous mène jusqu'au bout du monde.
Putin, of all people, and took sides with Russia over our own American intelligence agencies, now says it was just a tiny little slip-up, even smaller than his fists.
In a key sentence in my remarks, I said the word would instead of wouldn't. The sentence should have been, I don't see any reason why I wouldn't or why it wouldn't be Russia. So, just to repeat it, I said the word would instead of wouldn't. And the sentence should have been, and I thought it would be maybe a little bit unclear on the transcript or unclear on the actual video. The sentence should have been, I don't see any reason why it wouldn't be Russia.
Oh.
Explorez le monde du cinéma, partagez, découvrez, où que vous soyez. Commencez votre essai gratuit maintenant sur www.mubi.com/fr. Avis à tous les cinéphiles passionnés de la culture. Explorez le monde du cinéma, partagez, découvrez, où que vous soyez. Commencez votre essai gratuit maintenant sur www.mubi.com/fr. Abonnez-vous maintenant, 7 jours gratuits, sur Mubi, en ligne. Mubi, une programmation choisie avec soin, vous propose les plus grands films, cultes, classiques, indépendants et récompensés dans des festivals prestigieux. Mubi, du cinéma en ligne, un nouveau film chaque jour. 30 films à découvrir. Téléchargement via Android pour visionnage hors ligne. Du jamais de la pub, au cinéma. Mubi, une sélection des meilleurs films choisis avec soin pour seulement 9,99$ par mois. Explorez la nouvelle vague du monde du cinéma canadien avec notre invité dans un instant. Faites partie de Mubi. Commencez votre essai gratuit maintenant sur www.mubi.com/fr.
Scano Swagwego, that means hello everyone. Iswatundage, you are all listening to CIUT Wadrenota. You're listening to CIUT Radio 89.5 Nyagantra. It is placed at the frequency of 89.5.
Vous écoutez Potpourri Show sur CUT 89,5 FM, une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Potpourri Show, 30 ans déjà, toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm. ou www.popourichaud.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5
FM. DJ Chelou présente son projet au féminin Edith Diams, le mix d'Edith Piaf et de la rappeuse Diams, avec le mix de Non, je ne regrette rien et La Boulette.
Alors ouais, on déconne, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes, non.
Et oui, nous sommes très heureux de nous associer avec Cinéma en ligne Mubi pour vous présenter quelques perles de films canadiens lancés en grande première au monde entier. Une première dans les annales du cinéma canadien. Mubi, un cinéma en ligne dont la programmation choisie avec soin propose les plus grands films cultes, classiques, indépendants et récompensés dans des festivals prestigieux, y compris des films franco-ontariens. Mubi programme régulièrement des films français non disponibles sur Netflix. Récemment, vous auriez pu trouver une mini-rétrospective sur Juliette Binoche avec Camille Claudel, La moustache d'Emmanuel Carrère, Le temps qui reste de François Ozon et Hurlevent de Jacques Rivette. Dans quelques minutes, j'aurai l'honneur de recevoir l'un des cinéastes, réalisatrice, la seule, l'unique franco-ontarienne participant à cet événement. Et on en profitera pour parler des autres films en français ou francophone en ligne. Mubi, la magie du cinéma en ligne, à domicile, dans votre confort. Une sélection des meilleurs films choisis avec soin pour seulement 9,99$ par mois. Allez sur le site immédiatement. Abonnez-vous, www.mubi.com/fr. Ah oui, madame, monsieur, nous accueillons notre invité. C'est une première d'ailleurs, je pense. Tapis rouge, s'il vous plaît. Toute l'équipe est heureuse d'accueillir Sophia Bonadovitz, une franco-ontarienne qui a fait ses débuts au festival du documentaire Hot Docs, titré le site de Radio-Canada l'année dernière. Elle a présenté son 8e film en carrière, le documentaire Ma maison du bonheur. Elle raconte l'histoire d'une astrologue de 77 ans dans son quotidien. Bonjour Sophia, est-ce que vous êtes là?
Oui, je suis là, bonjour, comment allez-vous?
Ça fait bien, ça va bien. Alors nous avons tout le plaisir et l'honneur de vous accueillir à la radio pour la première fois, je pense.
Merci, oui, je suis très reconnaissante.
Alors, ce documentaire a reçu plusieurs prix, comme le Best Canadian Documentary et le Vancouver Film Critics Circle. Une projection de ce film a même eu lieu à l'Alliance française de Halifax au mois de mai dernier. D'ailleurs, quelle a été la réaction des cinéphiles, des gens qui étaient présents à Halifax?
Ils étaient vraiment émus. Nous avons eu une très belle conversation sur Skype par rapport à mes vécus, à tourner le film avec Julianne. Ils étaient vraiment touchés, mais vraiment intéressés à l'historique que j'avais avec Julianne, comment on s'est connus, comment nous avons tourné ensemble, qu'est-ce qui s'est passé quand je tournais pas, comment je me suis organisée, comment j'ai trouvé des fonds pour faire ça. En fait, nous avons tout discuté.
Alors, un film, nous dit-on, en hommage aux aînés. Maison du Bonheur, c'est un film tourné sur Julianne Selam.
Oui.
Qui est Julianne Selam?
Donc, Julianne Selam, elle est une astrologue à Paris. Elle habite à Montmartre. Ça fait 30 ans qu'elle a fait de l'astrologie. Et en effet, elle a appris l'astrologie de l'astrologue de le président Charles de Gaulle. Donc, Charles de Gaulle avait un astrologue. C'était un homme militaire qui s'appelait Régulus. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, il se fiait à un astrologue pour faire des décisions. Et puis, Julianne était le prodige de cet astrologue. C'est de lui qu'elle a appris comment faire l'astrologie. Elle reçoit des clients à Montmartre pendant 30 ans. Mais le film aussi se focalise vraiment sur Julianne et sa vie quotidienne. Donc, elle a beaucoup d'habitudes qu'elle a dans sa vie parce qu'elle vraiment elle apprécie vraiment les petits moments dans la vie. Donc elle aime prendre son café d'une certaine façon, de prendre de longs dîners avec sa sœur et son frère. Elle a le même coiffeur depuis 35 ans. Donc vraiment ça se focalise sur ses habitudes et pourquoi ils sont importants dans sa vie.
Avant de parler de cet astrologue, je ne sais pas si vous y croyez dans l'astrologie, c'est une question pertinente, n'est-ce pas? Est-ce que cet astrologue de 77 ans de votre film, Julianne Selam, est-ce que ses prédictions ont été réalisées?
Moi, je dirais que oui. Je pense que, en tout cas, vraiment, qu'il ne faut pas trop se fier à l'astrologie. Il faut regarder à ça comme un genre de guide dans la vie. Il faut pas comme être obsédé avec tous ces petits détails. Comme moi, je regarde à ça comme étant comme aller comme un psychologiste, un peu comme elle me donne comme un guide et un plan pour la vie. Moi, je l'appellerai pas pour la demander qu'est-ce que je devrais manger pour mon dîner. Il faut pas comme se vraiment obséder des petits détails. Donc c'est vraiment important pour moi d'avoir comme un guide pour me dire comment je suis, quelles sont mes habitudes, comment je devrais planifier les grands événements de ma vie. Parce qu'elle dit dans le film qu'on ne se connaît pas très bien comme être humain et c'est très important de se connaître. Et comme elle a fait tout un profil de moi, elle m'a décrit comme quelqu'un de très sensible, et si quelqu'un fait quelque chose de pas gentil envers moi, je leur fais le mur, ce qui est vraiment vrai. Et c'est vraiment, je pense, important d'avoir quelqu'un qui est capable de mettre un miroir devant toi et de vraiment décrire très précisément comment on est. Et c'est ça qu'elle a fait pour moi et je trouve que ça m'a vraiment aidée.
Alors, elle vit seule?
Oui, elle vit seule, donc elle venait juste de perdre son mari de 60 ans. Ça faisait 8 mois qu'il avait décédé et elle a accepté de tourner ce film avec moi, mais je voyais comme cinéaste quand je tournais avec elle parce que je tournais toute seule, donc il y avait comme une dynamique très sensible entre nous, comme elle était très ouverte, très généreuse, comme vous avez vu dans le documentaire, à partager des moments importants dans la vie. Mais je trouve que comme quand on a une caméra dans les mains, nous avons beaucoup de pouvoir et les gens se sentent vraiment vulnérables. Comme quand on a une caméra dans une salle, comme les gens changent tout d'un coup et je voulais pas qu'elle se sente mal à l'aise. De partager des choses qu'elle ne voulait pas partager. Et je sentais en moi que c'était pas quelque chose qu'elle voulait vraiment partager, mais elle venait juste de perdre son mari. Et je pense que c'était vraiment quelqu'un de très courageuse d'accepter d'avoir une étrangère venir, quelqu'un qu'elle ne connaît pas, tout à fait un inconnu, de venir chez elle et de faire un documentaire à propos d'elle.
Oui. Alors, je rappelle encore aux gens, aux auditeurs, le titre du film, Maison du Bonheur, d'ailleurs, que vous faites partie, d'ailleurs, bravo, félicitations de ce grand lancement de film canadien sur la plateforme Mubi, à travers 30 tableaux construits minutieusement. Le film Maison du Bonheur peint un portrait attachant de la vie quotidienne de Julianne Selam. Nous écoutons un extrait. Malheureusement, il faut voir le film, mais quand même, on voulait donner un peu le goût du son et de l'ambiance aux auditeurs. Nous écoutons un extrait de votre film.
Ah, merci.
C'est le 30 juin 2015 et je suis en train de préparer mes valises pour aller en France pendant un mois. Je vais vivre avec la maman d'une collègue à moi, dans un appartement à Montmartre, à Paris. Elle s'appelle Julianne, et on me dit qu'elle est une astrologue. Ça fait 50 ans ou plus qu'elle habite dans le même immeuble. Pendant que je suis là, j'espère de tourner avec elle, de vivre avec elle et d'apprendre un peu de comment elle mène sa vie. J'ai envie de me créer de nouvelles mémoires. La dernière fois que j'étais en France, j'ai vécu des choses qui n'étaient pas trop sympas. Je n'ai jamais fait la connaissance de Julianne, même pas par téléphone. Pour moi, c'est tout à fait un inconnu. J'ai aucune idée de comment tout cela va fonctionner.
Eh oui, je me vois déjà dans le quartier Montmartre à Paris, cet endroit mythique que je connais personnellement très très bien.
Alors,
pour les gens qui nous écoutent, surtout les jeunes qui nous écoutent, des étudiants qui sont avec nous en studio, comment vous avez vraiment atterri dans ce monde qui est tellement difficile à percer, c'est-à-dire le cinéma? Qu'est-ce qui vous a inspiré pour être réalisatrice, pour être, faire des documentaires?
Wow, c'est une question très importante. En effet, c'était les films d'Agnès Varda qui m'ont vraiment inspirée parce que quand j'ai sorti de l'école de cinéma, j'étais vraiment stressée parce qu'il faut avoir beaucoup de ressources pour tourner des films, beaucoup d'argent, il faut avoir toute une équipe d'équipement et ça coûte très cher. J'avais aucune idée comment je pouvais me lancer dans ce monde sans avoir beaucoup d'argent. Mais là, j'ai commencé à regarder mon film d'Agnès Varda comme des diagotypes qu'elle a tourné quand elle avait 7 ou 8 mois enceinte. Elle a juste tourné ça avec une caméra qu'elle avait chez elle. Elle a tourné tout un documentaire avec les gens qui habitaient sur sa rue, la rue de Daguerre à Montparnasse, à Paris. Donc là, quand j'ai vu ce film, j'ai vraiment réalisé que on peut faire des films qui sont honnêtes à propos de la vie, des films qui sont simples. On peut tourner ça toute seule avec les ressources que nous avons. Et les gens vont aimer ça parce que Quand on prend des plans et on tourne un film à propos des gens qui est honnête et authentique, les gens peuvent se voir dans ce sorte de cinéma. Et c'est vraiment en regardant ces films et les films de Chantal Ackerman aussi qui m'a vraiment aidé à réaliser qu'on n'a pas besoin de tout ce qu'on pense qu'on a besoin pour tourner un film. On peut utiliser qu'est-ce que nous avons dans les mains et être économique et aussi tourner un film qui touche les gens.
Mais Sofia Bodanovitz, madame, monsieur, une franco-ontarienne, une vraie franco-ontarienne d'ailleurs, qui a lancé son film, un documentaire au dernier festival de Hot Dogs. C'était l'année dernière, plutôt, Hot Dogs. Alors, les aînés, c'est un thème de prédilection, hein, parce que on parle beaucoup des aînés, leur situation, leur évolution dans le système de santé, dans la vie de tous les jours. Et ce film, La Maison du Bonheur, prend tout son sens à un moment où l'on parle de vieillissement de la population. Et au Canada, il y a maintenant plus d'aînés que de jeunes.
Donc, je ne savais pas ça.
Oui. Alors, selon une critique de Radio-Canada, il dit « Pour la réalisatrice, nous sommes devenus trop préoccupés avec les inquiétudes de la génération Y. » Alors, ce film nous permet de prendre le temps, à passer du temps avec les personnes âgées, connaître, comprendre leur histoire. On apprend beaucoup de nos grands-mères, hein, de nos grands-papas, n'est-ce pas?
Oui, elles sont vraiment sages. Et je pense que ce qui est vraiment triste, c'est qu'on ne prend pas vraiment le temps à écouter à leurs histoires et on peut apprendre beaucoup de soi-même en écoutant leurs histoires et de vraiment comme appliquer leur vécu à nos vies même. Et je trouve que beaucoup de cinémas de nos jours, il y en a des films qui met en vedette des aînés, mais il n'y a pas beaucoup de films qui met des aînés en vedette de leurs films et juste leur montrer comme des êtres humains naturels. Il y a beaucoup de stéréotypes dans les films par rapport à des aînés. On leur montre comme confus ou fatigués ou bizarres, ou sont de drôles de tête, mais on leur montre pas comme des êtres humains qui ont des émotions, qui sont complexes, et on prend pas vraiment le temps pour vraiment être avec eux. Et pour moi, ça, c'est vraiment important.
Donc, alors, pour les gens qui n'ont jamais rencontré Sofia, madame, monsieur, elle est encore jeune, dynamique, et vous avez une tête de modèle. C'est-à-dire, vous êtes vraiment une carte bien, je pense, pour faire du cinéma. Avez-vous pensé à être une actrice de carrière plus tard?
Non, je ne crois pas. Moi, je suis vraiment, vraiment, vraiment mal à l'aise devant la caméra. En effet, je fais d'autres films en anglais avec une actrice ici à Toronto, Derek Campbell, avec qui je travaille aujourd'hui. Et j'écris des histoires de ma vie, mais je la mets en vedette et je la donne ma rôle dans ma vie. Donc, il y a un film que je joue dedans qui s'appelle Never Eat Alone. Et elle joue la petite fille de ma grand-mère. Et elle rejoue une histoire qui est arrivée entre ma grand-mère et moi. Donc, moi, quand j'étais jeune, je voulais être actrice, mais j'étais très, très, très mal à l'aise devant les gens, devant la caméra. Et je savais que je voulais continuer à partager des histoires avec le monde. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'être réalisatrice.
Je suis avec madame, messieurs, je suis avec la réalisatrice franco-ontarienne Sofia Bodanovitz qui participe à ce lancement du film canadien en ligne du site Mubi. Alors, nous allons parler brièvement, Sofia, si vous le permettez, des autres films en français. Les Arts de la parole d'Olivier Godin, un film expérimental pour lequel le réalisateur emprunte à différents genres et utilise un format d'image de créer une œuvre unique, différente, intéressante. Le réalisateur qui est québécois brise les règles du cinéma, se joue de conventions, rit de la cohérence et de la logique. Ça peut en surprendre certains, mais cela en charme d'autres, assurément. Alors, c'est l'écrivain québécois Pierre Maheu, de 1939 à 1979, qui est au centre de ce film. Et la question nationale du Québec était au cœur des réflexions de Maheu, qui, quelques mois avant de mourir dans un accident d'auto, avait d'ailleurs été mandaté pour rédiger une partie du livre blanc sur l'avenir constitutionnel du Québec, du Parti québécois. Alors, c'est un film à voir aussi en ligne, « Les arts de la parole » d'Olivier Godin. Il y a, d'ailleurs, le journal Le Devoir fait une très bonne critique et dit « De fait, avec son humour lourd, sa poésie déclamée d'un faux ton, son montage brutal, sa lumière défaillante et sa mise en scène rigide, les arts de la parole ressemblent à la plupart du temps à une piètre parodie de film expérimental ou d'un film étudiant. » Donc, ça, c'est la critique de Devoir. Un autre film qui est aussi en ligne, qui fait partie de votre film, Maison du Bonheur, Guillaume Langlois, qui interroge la plupart le rapport à l'histoire des enfants avec son film Histoire, Storytelling. Et je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir, mais c'est il est à la fois scénariste, caméraman, monteur, enseignant. Guillaume Langlois s'engage dans divers projets depuis plusieurs années. Établi comme réalisateur auprès de Télé-Québec, il propose Histoire, un court-métrage documentaire réalisé grâce à la bourse Sominage et du Conseil des arts de Saguenay. Cherchant à susciter la réflexion auprès des spectateurs, il donne la parole à deux classes d'élèves qui servent à chacune une étonnante leçon d'histoire. Guillaume Langlois, Histoire, Storytelling, Madame, Monsieur, c'est à voir absolument. D'ailleurs, un autre film, nous allons entendre un extrait, c'est « Pays » de Chloé Robichaud, qui est une fresque politique et humaine sur l'identité, une réflexion sur l'image des femmes et hommes de pouvoir. Voilà un film qui cadre avec tous les débats sur le féminisme ces temps-ci. « Pays », second long-métrage de Chloé Robichaud, qui s'affiche comme une fresque politique et humaine sur l'identité qui explore la place de la femme dans un milieu traditionnellement masculin. On en écoute un extrait.
Ce sera donc ça, ma job. Faciliter le dialogue pour que vous repartiez avec des termes clairs sur l'exploitation minière à Basco. Femme, et non la politicienne, vit avec la crise actuelle.
Les deux travaillent des solutions.
Ça n'a pas été trop dur, tes élections?
Ouais, ben mes parents sont fiers. Puis mon chum puis moi, ben on s'adapte.
Qui porte nos traces?
You fucking kidding me? This is insane, right?
Voilà, Pays de Chloé Robichaud, Madame, Monsieur, en 2012. Son film Chef de meute était également présenté à Cannes en nomination pour la Palme d'Or du court-métrage sélectionné pour les prix Jutra et au Canadian Screen Awards, figure en bonne place au Canada's Top 10. Voilà, il y a des artistes, des cinéastes qui font du beau travail dont on ne les connaît pas. Et grâce à ce nouveau programme, un projet, comment d'ailleurs on vous a contacté pour que votre film soit projeté sur la plateforme Mubi?
Ah, c'était en fait Kurt Walker qui coordonne la sélection qui m'a contacté. En effet, il m'a demandé de faire partie de cette sélection et moi j'étais vraiment contente parce que je fais la distribution de mes films indépendamment avec mon producteur Calvin Thomas. Donc, c'est vraiment assez difficile de faire distribuer mon film. On le fait indépendamment, mais nous avons aussi réussi de faire le film sortir en salle à TIFF. Donc, ça va se faire le 17 août. Le film va sortir pendant une semaine en salle à Old Light Box et puis aussi à New York au Metrograph le 24 août. Mais j'étais vraiment émue que Mubi m'a approchée pour faire ça parce que je pense que le grand défi pour en étant une réalisatrice qui travaille vraiment économiquement et indépendamment, c'est vraiment difficile de faire voir ces films. C'est moi qui contacte les cinémas, les gens, les coordonnateurs des programmes de cinéma pour leur demander de montrer mes films. Donc, j'étais vraiment contente et soulagée quand ils m'ont demandé de faire ça et je suis vraiment, vraiment contente de faire partie de cette sélection superbe.
Sofia Bodanovitz, madame, monsieur, voilà une franco-ontarienne qui a déjà lancé son documentaire Hot Dogs l'année dernière et qui maintenant lance ce film, Hommage aux aînés. Et un film à voir absolument en ligne, Maison du Bonheur, et ça coûte pas cher. C'est une façon pour vous de vous abonner et d'aider le travail de nos cinéastes bien d'ici, bien de chez nous. Je vous remercie infiniment et je vous souhaite bonne chance. Et on voit, voilà, tous les étudiants et tous les auditeurs vous applaudissent chaleureusement. Et merci à votre équipe et bonne chance, Sophia. Au plaisir de vous avoir très prochainement à l'antenne. Hein.
Merci beaucoup et je voulais juste ajouter que les gens devraient regarder à Mimi sur son écho par Sophie Goyette. Merci. Il va être montré sur la plateforme Midi dans 3 jours.
Merci, au revoir.
C'est génial, au revoir.
Bon dimanche. Et oui, madame, monsieur, voilà, nous sommes arrivés presque à la fin de notre voyage intercontinental. Merci à Sloan, à Ballant d'avoir été là aujourd'hui. DJ Devera, Radio France Internationale, TV5, RFI, Alain Chouraki, Sophia, merci d'avoir été là. Nad Sivaramen de la Sentinelle, Journal Express de l'île Maurice, le journal qui milite depuis sa création pour le mauricianisme et la libre entreprise. Et bien sûr, l'Express de Toronto et France 24. Ici Eric Adel, je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Bon dimanche et bonne semaine.
Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Il fait partie de la catégorie poids lourd. Un palmarès à couper le souffle. Un nombre de scènes impressionnant. Ce prodige nous vient tout droit des Antilles. Mesdames et messieurs, êtes-vous prêts pour le phénomène, la bête de scène, l'enfant du pays? Are you ready for Admiral D?
La vie, c'est son égalité.
pas un coin n'importe qui qualité. Ce qu'elle pas mais je vois là toujours. Yo, tout le monde me bien sûr. Yo, c'est ça mon animal. Et les sexes de madame. Ralse, c'est ça mon animal. Les sexes de madame. Merci.